Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, comme chaque lundi pour votre émission, donc Mon Paris Sport, 19h, 20h30, on aura encore beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter ce soir. On reviendra naturellement sur le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos hein, pour commenter une folle actu foot de la semaine. On ira aussi du côté de la natation artistique qu'on a vécu la semaine dernière à la piscine Valeret à Paris. Et puis on va essayer de rester dans l'héritage ce soir en parlant de sport handisport hein, et de sport handicap avec nos différents invités. Je vais d'abord saluer mes confrères de Vive FM. J'avais promis de les inviter. Ils m'avaient remarquablement bien accueilli le 23 janvier dernier dans leur émission de sport. Ils sont là, donc je les en remercie. Bonsoir Jason, ça va ?
Bonsoir Philippe.
Ouais, bah, pleine forme ?
Mais oui, c'est un vrai plaisir.
Je suis ravi moi aussi.
Mais oui, hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on se croise régulièrement, notamment à Paris 2024.
Voilà, c'est la magie. Justement, parler d'handisport, on a vécu le sacre d'Aurélie Aubert côte à côte.
Hein, oui, on était l'un à côté de l'autre.
Oui,
c'est un beau souvenir. Beaucoup d'émotions.
Oui, oui. Et bien, t'es accompagné de celui que je croise aussi assez régulièrement sur les compétitions, c'est Lucas. Bonsoir Lucas, ça va ?
Bonsoir Philippe, ça va et vous ?
Pleine forme ?
Ça va, et toi ?
Bien. Et puis, deux associations d'invités ce soir. L'association donc Adaptim avec Johan. Bonsoir, Johan.
Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Donc, moi, c'est l'association Adaptatim.
Adaptatim, je vais y arriver. Hein.
Et Johan.
Et Johan. Et Johan, d'accord, ok.
Donc, enchanté, merci de nous accueillir.
Ouais. Et puis, donc, également avec nous, Hugo de l'association AAD, c'est ça ?
Bonsoir, Philippe. Merci pour l'invitation. Effectivement, je suis en joie d'être là parmi vous.
D'accord. Alors, première question simple. Est-ce que l'héritage dont on a parlé, est-ce que vous le vivez actuellement, John ?
Un petit peu pour le moment. C'est vrai que c'est encore un peu timide, mais on est sur une bonne lancée. Je trouve que les JO ont permis de mettre en lumière pas mal de disciplines et pas mal de problématiques que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer. Donc, il y a un bon move, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense.
D'accord. Alors, on va justement en discuter. Je voulais dire à mes amis de Vivre FM, est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi ?
Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on a tellement fait la fête, on a tellement vibré avec nos handisportifs qu'on l'a toujours en tête. Non, parce qu'en même temps, on sait qu'il y a certains handisportifs qui ne sont plus soutenus financièrement par des entreprises, alors que c'est important. Et non, parce qu'on n'en parle plus suffisamment non plus à la télévision ou à la radio, hormis quelques niches, comme avec vous, Philippe, aussi. Donc, je suis assez partagé, et Lucas aussi, je pense.
Oui, je pense que ça, comme tu disais, c'est le côté... après, on a les sponsors, en termes de sponsors, on voit très bien qu'il n'y a que les grosses sponsors qui sont, qui restent. À part Alexis Anquincan qui a renouvelé son partenariat avec la Matmut, si je me trompe pas. Donc c'est assez pauvre en termes de sponsors si on parle.
Alors justement, on va écouter une interview qu'avait faite Vanessa. D'ailleurs, je voulais en profiter pour avoir une énorme pensée pour elle et puis pour l'embrasser ce soir et lui dire qu'on est de tout cœur avec elle. Elle avait fait une interview de Rana Welcher, c'était le 30 juin dernier, juste avant les Jeux Paralympiques. On va écouter cette interview qui durait une bonne dizaine de minutes à peu près, on voit 12 minutes, c'est ça. Et puis on débattra, puis on verra si ses souhaits et ce qu'elle disait, ça a un tout petit peu évolué. On écoute donc Rana Welcher.
Vanessa Saxic pour Mon Paris FM, je suis à Paris sur les Champs-Élysées et... nous allons recueillir les réactions sur les anneaux paralympiques qui ont été, les agitos qui ont été posés vendredi. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Rama.
Et vous êtes ici à Paris, vous vivez à Paris ?
Yes, je vis à Paris.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez déjà vu les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Qu'est-ce que ça vous a procuré ?
I think it's amazing. Je trouve que c'est super cool. On les voit bien. Vraiment, on voit les cinq. Et Eiffel Tower, c'est vraiment l'emblème. Donc, je l'ai bien remarqué. Je trouve que c'est très, 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 très joli. Ceux-là, nous sommes à côté de Arc de Triomphe. C'est vous qui venez de me l'apprendre. Je n'étais pas au courant qu'il l'avait fait le vendredi. Donc, on voit les panneaux un petit peu partout de Paris 2024, mais je n'avais pas vu les anneaux. Je viens de les remarquer grâce à vous.
Merci beaucoup. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un symbole? Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement?
Non, je pense que c'est cool. En revanche, est-ce qu'on les voit depuis Concorde? Puisque c'est Concorde où il va se passer là-bas le BMX, je crois, le BMX. Il y aura le basket 3x3, il y aura pas mal de choses. Et est-ce qu'on les voit de là-bas? Parce que comme il a l'avenue de Champs-Élysées, parce que là, honestly, je ne les avais vraiment pas trop remarqués. Et c'est vrai que les anneaux, c'est les anneaux. Il faut qu'on puisse les voir de très très loin.
Est-ce que vous suivez un petit peu peut-être le handisport ou les Jeux paralympiques déjà?
Je suis ça de très près et franchement, j'ai vu qu'à Arena, ils vont faire déjà la natation, ça commence à se préparer avec les nouvelles piscines, etc. À côté de Nation, il va y avoir pas mal d'activités aussi. Mais vraiment, je pense que les handis, depuis Tokyo, moi je regarde beaucoup plus le handisport, le handi paralympics en fait, qui s'appelle, que le Olympics. Par contre, là où je suis très contente, c'est que Tony Estanguet, il a eu cette super ambition de mélanger à la fois Olympics et Paralympics. Donc ça, je trouve ça cool.
C'est-à-dire que les Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août et puis on se retrouvera du 28 août au 9 septembre pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que pour vous, en France, quand même, on avance sur la question? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibilisés? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être beaucoup plus sensibilisés ces derniers temps aux Jeux Paralympiques?
Alors, pour les Paralympics, yes. J'ai été très sensibilisée parce que voilà, j'ai accès aux médias, etc. Et aussi parce que je suis en fauteuil roulant, donc je suis moi-même handicapée. Et que du coup, on essaie de remarquer ce qui s'améliore ou pas pour nous en termes de transportation et pour se rendre d'un lieu à l'autre. Et honestly, ce n'est pas top pour l'instant. Voilà, c'est pas donc, top.
En effet, à Paris, on n'a pas encore totalement avancé sur la mobilité des personnes à mobilité réduite. Excusez-moi, je me répète, mais est-ce que pour vous, au quotidien, c'est comment? C'est difficile? Est-ce qu'il y a des petites améliorations ou pas? Ou vous avez l'impression que ça n'avance pas vraiment?
Comme je viens de vous le dire, c'est pas top comparé à d'autres pays. En plus, c'est l'année de l'accessibilité. Normalement, on aurait dû avoir des améliorations vraiment progressives, quoi, nettes. Mais honestly, je ne les ai pas trop vues, quel que soit le type de transportation. Et puis, nous, vous savez, on a du mal à trouver aussi des taxis adaptés et des taxis pour le fauteuil roulant. Maintenant, je reste optimiste, je reste enthousiaste et je me dis qu'il y aura la ferveur. Peut-être que la civil society aussi va peut-être aider, les volontaires, je ne sais pas, vont peut-être nous aider à pouvoir se rendre sur les lieux de Paralympics. En tout cas, je sais que les tarifs, ils les ont baissés pour les Paralympics. Donc, il y a des tickets maintenant qui sont accessibles en termes de price. Et il faudrait qu'on ait maintenant l'accessibilité physique pour y aller et assister. Voilà.
Tout à fait. Est-ce que vous allez suivre un peu les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques cet été? Vous êtes à Paris?
Yeah, je suis là. Je suis là et je soutiens et je supporte. Depuis longtemps, il y avait entre LA et Paris. Et je trouve que là, j'ai suivi aussi la flamme, ce qui se passe avec les relais de la flamme. Donc, je trouve que c'est passe des trucs très, très magnifiques pour l'instant. So far, so good, comme on dit. Et aussi, je pense que le centenaire avec Pierre de Coubertin, it is important. C'est important. Et aussi, je pense que Il faut qu'on envoie des good vibes, qu'on arrête de faire du French bashing et de dire ouais, ça va être nul, this. Y a toujours des trucs à améliorer, même last minute, je crois dans le génie français, on peut toujours trouver des solutions et surtout grâce à solidarité. I believe in that. Je pense que les gens, quand ils veulent vraiment être solidaires et partager le même ferveur, parce que finalement, tous ces athlètes, que ce soit les para-athlètes ou les athlètes, ça fait 4 ans qu'ils se préparent pour défendre des performances extraordinaires et pour leur nation, pour leur pays. Donc c'est quand même quelque chose qui est transcendant. Voilà, donc je pense que j'espère qu'on va avoir cette transcendance et cette ferveur qui sera non seulement nationale, mais aussi du coup internationale, puisque le monde entier, il va venir ici, pas que à Paris, mais dans toute la France.
Vous venez de me parler de Pierre de Coubertin, justement. On fêtait les 134 ans de son discours fondateur la semaine dernière à la Sorbonne. Pour vous, qu'est-ce qui représente Pierre de Coubertin ?
La citation célèbre, l'important c'est de participer, donc il a raison, même si on participe de loin, en regardant TV channels, je crois que de plus en plus, d'ailleurs vous voyez les Paralympics, depuis Tokyo il y a eu un boom, France TV, ils ont déployé beaucoup d'efforts, on voit, là ce sera en live je crois, tout le temps, 24/7, which is very cool, and I think it's also kind of accessibility. Il y a des gens qui ne peuvent pas y aller sur place pour les sites, mais Pierre de Coubertin, écoutez, c'est quoi, c'est une icône française qui a tellement, qui s'est dédiée pour le sport et pour le sport olympique, et qui a laissé derrière lui une légende et une très très belle image de la participation de France, même si je crois, je ne me souviens plus les médailles, je crois que les US, ils ont plus de 1000 médailles à peu près, eux, par Olympics. Et la France, elle est dans les 200, quelque chose comme ça. Mais pour un pays comme France versus des US, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal d'avoir presque le quart de... Donc je pense que l'olympisme, il venait du temps des Grecs. Après, ça a été repris de manière très contemporaine grâce à Pierre de Coubertin. Et là, il continue le heritage, the legacy. And I think it's cool. C'est bien pour le patrimoine. Et tout le monde devrait faire le sport, ceux qui peuvent, en tout cas.
Et alors, vous, justement, qui avez été dans d'autres pays, vous avez constaté qu'il y avait c'était mieux au niveau de l'accessibilité des transports et sans doute l'accessibilité d'une manière générale. Est-ce que vous pouvez nous dire les pays où vous avez vu une meilleure accessibilité ?
Si on parle de transportation. La ville la plus accessible au monde, c'est San Francisco, déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à San Francisco. It goes up and down, wind, you know, down and up with hills. Et ils ont réussi à rendre la ville la plus accessible au monde. In Europe, je crois que c'est Barcelona. Et après, je crois qu'il y a Copenhagen. Mais France, elle est vraiment très, très, très down au niveau de l'accessibilité.
In
general, très en retard. Après, transportation, ça, c'est pour l'accessibilité in general. En fait, c'est très curieux parce qu'il y a beaucoup de lois pour l'accessibilité, ERP, établissement recevant le public. Il y a des lois qui sont très strictes avec des fines, des amendes, mais nobody seems to care. Les restaurants, vous avez vu, vous voyez, la plupart ne sont pas accessibles. Quand ils sont accessibles, les toilettes ne sont pas accessibles. Il y a le regard qu'il faut changer. Maintenant, transportation, London 2012, quand ils ont eu le challenge de lancer les Olympics, eh ben ils ont amélioré les deux tiers de leur LUL, de leur métro, pour que ce soit accessible. Spain, c'est aussi très accessible. Ici, excuse me, ça fait longtemps, depuis 2017 qu'on le sait, et en réalité, c'est pas la faute des organisateurs de Paris 2024. Non, c'est je sais pas whoever is in charge with this, mais il n'y a pas, on n'a encore qu'une seule ligne. Donc là, ils ont inauguré le 14. Le prolongation.
Jusqu'à l'aéroport d'Orly,
which is very cool, very cool. Jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, donc oui, le village olympique, which is very cool. Mais, it's going to be very crowded, by the way. Tout le monde va prendre ça, le même truc. Et nous, c'est la seule qu'on peut emprunter. Donc, excuse me, c'est la seule station, la seule ligne de métro qu'on peut emprunter, c'est la 14, en réalité. Et ça n'a pas évolué. Donc, vous voyez là, there's no big leap, there's no big step, il n'y a pas d'avancée. Après, il y a le RER, RER A, RER B, RER D, C, mais il faut prévenir à l'avance, arriver, this, kind of complicated.
C'est un peu le parcours du combattant, finalement.
Carrément. Les taxis, je vous le dis franchement, moi, quand j'appelle un taxi adapté, j'attends minimum 30 à 45 minutes. Il ne faut pas être pressé pour avoir la lampe, et il n'y en a pas beaucoup en réalité, donc c'est pas top. Il y a les bus, ça par contre il y a eu une super amélioration, je crois que entre 80 et 90, I can't remember the figure, sont accessibles, ça c'est cool, on a les rampes, les tramways sont tous accessibles, mais le métro ils n'ont pas fait le... Et quand on me dit non c'est trop vieux, j'ai dit non, I'm sorry guys, parce que celui de London il est plus vieux que celui de Paris, et ils ont réussi à améliorer. Donc on peut toujours améliorer quand on veut vraiment. Et quand on y met... et c'est pas qu'une question de moyens, d'argent. Il faut vraiment le mindset. Il faut qu'on ait envie de le faire et qu'on dise.
L'esprit, exactement.
Yeah. On est quand même, in France, on est quand même 12 millions, entre 12 et 15 millions de personnes en situation de handicap. Je crois qu'on est 3,5 millions en fauteuil roulant, mobilité réduite. Et dans les entre 12 et 15 millions, donc on est 17% de la population. So it matters. C'est une minority quand même qui est importante. C'est pas un petit nombre. Et du coup, 80% des handicaps sont invisibles. Et les gens ne vont même pas le dire parce qu'ils vont avoir peur du stigma et qu'on dise « Ah ben, you know, you're disabled, blablabla. » Parce que le regard, il ne change pas assez vite ici en France. On améliore petit à petit, mais il faut des spokespersons. Il faudrait qu'on ait vraiment un lobby pour ça qui défendent voilà, aujourd'hui c'est elections, ok, we have to, vous voyez, aujourd'hui c'est elections, bah, aucun des programmes, aucun des flyers n'a mentionné le disability, le handicap,
oui.
So, tout le monde s'en fout, ben 17%, non, on s'en fout pas, et ces gens-là, ils votent, moi je vote, donc les gens, ils votent, donc à un moment donné, il faut quand même considérer la population, il faut que ce soit représentatif de la population française.
Merci beaucoup, vous avez même anticipé ma question.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez juste me redonner votre nom et votre pays d'origine et...
Pays d'origine? Non, I just live here.
Okay.
Voilà donc pour cette interview, Johan, un petit commentaire. Est-ce que, bon, il faut quand même retranscrire, hein, c'était donc le 30 juin dernier. Est-ce que les choses ont changé, l'accessibilité justement?
Non, pas encore. Pas suffisamment, pas pour le moment. Je suis d'accord avec, oui. avec la plupart des choses évoquées, mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on est encore au tout début de tout ce mouvement, de ce combat auprès de l'accessibilité.
Oui.
Donc on espère que par la suite, beaucoup plus de choses vont être mises en place pour
oui. Notamment pour dans les faciliter. Bâtiments, les transports en commun.
Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être véhiculé, donc oui. C'est vrai que les transports... sont un peu moins mon problème du quotidien, mais je côtoie pas mal de personnes, notamment des adhérents de l'association Adaptateam, qui rencontrent des difficultés
oui.
pour venir jusqu'à la salle, des problèmes de transport, que ce soit taxi, bus, etc. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
C'est la priorité, c'est le fait,
je pense, ouais, c'est la priorité.
C'est la chose la plus importante.
Ça nous permet en fait de pouvoir se déplacer sans forcément se poser la question de devoir s'organiser. Mmh. En fait. Aujourd'hui, on est obligé de s'organiser pour énormément de choses déjà, de prévoir à l'avance. Mais là, le but, c'est vraiment de faire bouger les choses pour que derrière, on soit beaucoup moins impacté par des problèmes qui peuvent être évités. En fait.
Jason, c'est ce qui ressort aussi des gens que vous recevez à Vivre FM.
Oui, et Paris ouais. 2024 ouais. doit être l'occasion ouais. d'une amélioration
oui.
générale, mais ça doit perdurer au-delà. C'est même terrible de se dire qu'il a fallu attendre d'avoir les Jeux Olympiques pour avoir une nette amélioration, même s'il y a encore beaucoup de progrès à avoir au quotidien dans la vie des gens. Hein. Effectivement, Johan parle de sportifs amateurs qui peuvent venir dans l'association. Bah, quand on ne peut pas se déplacer, bah, on ne peut rien faire. Imaginez pour aller faire des courses, pour aller au musée.
Oui.
Aussi, c'est la même chose. Alors, je pense qu'on doit tous être acteurs et que, comme le dit Rania dans l'interview, c'est les collectivités publiques parce que les gens votent. On doit enfin les écouter. Souvent, on parle des invisibles parce qu'ils se montrent peu. Alors, il y a eu la fête à la République debout là, le 10 oui. Février dernier.
Oui, c'était au lendemain du meeting de oui. Bercy hein, pour l'athlétisme.
Hein. Oui,
c'est ça. On se rappelle le coup de gueule d'ailleurs de Timothée Adolphe. Hein.
Oui. Et heureusement qu'il y a des ambassadeurs oui. comme ça, avec des sportifs connus, d'autres moins connus. Mais tout le monde doit s'unir pour dire attention, là, dans la société, il y a plein de choses qui doivent bouger. On parle là d'accessibilité, mais avec Johan et j'ai oublié le prénom de
Hugo,
Hugo le camarade, ouais. on va pouvoir voir que dans la vie d'une personne en situation de handicap, il y a plein de choses. Et oui. puis, il y a le handicap moteur, mais il y a le handicap invisible également, psychique mmh. aussi mmh. à prendre en compte.
Hugo, tu es d'accord avec ça, toi?
Ah mais totalement, oui. je le vois, moi qui ai dit dépendant des bus sur Compiègne, oui. heureusement pour moi, je tiens mon chapeau aux personnes qui ont un handicap, qui ne sont pas dans la possibilité de pouvoir se déplacer sans accompagnement, Mais moi, malgré sans handicap physique, je peux me dépasser moi-même, mais je vois les problèmes dans les bus. Mmh. Ouais, malheureusement, de nos jours, ça crée aussi beaucoup, beaucoup de retard.
Ouais. Alors, l'association, elle date de quand ?
L'association Adaptateam a été ouverte administrativement en février 2022. Alors, l'initiative de ce projet, c'est y a un problème rencontré suite à une hospitalisation. Donc, j'ai été, entre guillemets, victime suite à un accident de moto. Mm-hmm. Et du coup, il a fallu que...
Ah, parce que tu n'étais pas handicapé avant ?
Non, du tout.
D'accord.
Non, j'ai eu un accident en 2016.
C'est juste la moto.
Exactement.
Ah, oui. D'accord.
J'ai eu un accident de moto en 2016, du coup. Mm-hmm. Et suite à ça, j'ai voulu reprendre une activité sportive type musculation, comme j'avais l'habitude de pratiquer étant valide. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que une simple salle de musculation en fauteuil roulant n'était pas du tout, ou voire très très peu, accessible, adaptée. Mm-hmm. Donc les premières questions ont commencé à se poser à ce moment-là. Savoir s'il existait des structures qui pourraient m'accueillir.
Et alors ?
Et alors, rien n'existait pas.
Il y a eu des
simplement.
Portes qui sont fermées, pas de.
Ouais. Voilà, des portes qui sont fermées, des prises de risque à la salle de musculation parce que on doit se transférer sur telle ou telle machine, mais du coup, ça empêche de pouvoir pratiquer la discipline entre guillemets facilement. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me rapprocher de la discipline qui s'appelle le cross-training, que je connaissais de nom, mais que je n'avais pas eu encore l'occasion de pratiquer. Donc à l'époque, ça date de 2019, je rencontre du coup un gérant de salle qui s'appelle Gilles Gauthier, qui m'accueille dans sa salle de cross-training, du coup, et qui me permet de découvrir cette discipline. Il se pose la question, il réfléchit beaucoup pour justement me permettre de pratiquer la discipline malgré mon handicap. Déjà, je vois la possibilité qu'il y a comparativement à justement une salle de muscu standard. Les idées commencent à se mettre en place et je commence à me demander si... une structure pourrait voir le jour justement pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes valides. Mmh. Et de là, du coup, j'en discute avec Gilles parce que avec lui, j'avais aimé déjà sa façon de faire, son état d'esprit avec moi. Il n'était pas là à s'apitoyer sur mon sort, il était plus là pour trouver des solutions à ma problématique de tel ou tel mouvement. En en discutant avec lui, il m'a dit moi je suis archi partant pour lancer cette structure. À l'époque, on savait pas si ça allait être sous forme associative ou autre. On a initié justement des journées où on réunissait des personnes en situation de handicap et des personnes valides au sein de gymnases. Pour voir un petit peu comment ça pouvait se dérouler. À ce moment-là, en fait, Gilles du coup a organisé la séance de manière à ce que les personnes soient en binôme handi-valide. Et de là, on a vu que l'inclusion était vraiment à son maximum. Et franchement, ça faisait plaisir à voir l'entourage qui était présent aussi sur place. A eu aussi les larmes aux yeux parce qu'il voyait toute cette entraide. C'était pas du tout un assistanat, en fin de compte. C'était vraiment un côté hyper soudé du binôme handi-valide. Et en fin de compte, de petit à petit, on a continué à faire d'autres événements. On a essayé de se rapprocher de différents organismes qui nous ont permis de pouvoir obtenir, dans un premier temps... peut-être des dons de matériel, etc.
Oui, parce qu'il faut les adapter en plus.
Alors, il y a des adaptations.
Ouais, c'est ça.
Il y a des adaptations, mais l'avantage du cross-training, c'est que le matériel s'adapte plus facilement au handicap, et ce n'est pas l'inverse. Mm-hmm. Et ça change tout. Il faut plus réfléchir à une manière de faire le mouvement. Et pour ça, du coup, on a des coachs... qui sont tout à fait qualifiés pour. On a aussi la, enfin, on a eu la chance du coup d'avoir la ville de Montlhéry dans le 91, du coup dans l'Essonne, qui nous met à disposition gracieusement un local de 300 mètres carrés.
Ah, c'est hyper important. Hein.
Donc ça c'est voilà c'est la base. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc on les remercie. J'en profite aujourd'hui pour les remercier parce que aujourd'hui on compte une soixantaine d'adhérents. Une parité, voilà, une équité entre handis valides, donc c'est
donc,
vraiment...
ceux qui nous écoutent, tout le monde peut encore venir, hein, c'est possible.
Ah bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr, on est à la recherche de, bah, de nouveaux adhérents qui pourraient bénéficier de cette structure, et avant tout aussi de coachs qui pourraient rejoindre aussi l'association pour pouvoir proposer plus de créneaux par semaine.
Ouais. Et sinon, il y a d'autres activités qu'on peut pratiquer?
Non, nous, on est sur la discipline du cross-training principalement.
D'accord. Il y a un prix, il y a un coût, je suppose.
Voilà. Alors nous, l'année, nous sommes à 250 euros annuels, ce qui fait une vingtaine d'euros par mois. À l'époque, avec Gilles, on y avait réfléchi et l'objectif n'était pas du tout d'en faire un business. C'était plus de proposer une activité qui soit accessible à tous. Et on avait tenu compte de, bah, des possibilités aussi financières des personnes en situation de handicap qui sont pas forcément évidentes. Donc pour le moment on est sur ce tarif là qui est convenable et qui permet au plus grand nombre de pouvoir accéder facilement mm-hmm. à notre structure.
Oui, parce que Lucas Pigellon, ça c'est un des problèmes, hein. C'est aussi le côté financier naturellement. Bien sûr.
Mais oui, ça coûte cher déjà de faire du sport dans la société normal, d'une manière générale. Là, quand on est sur ces tarifs-là, je dirais que c'est quasiment donné. Donc, on peut y aller avec importance. C'est vrai qu'une personne en situation de handicap, elle est pauvre. En France, c'est une réalité par rapport à quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap. Donc, c'est un point important, Lucas.
Oui, effectivement, on voit qu'il y a des salles de sport qui sont de plus en plus adaptées pour... les personnes en situation de handicap et je trouve les initiatives assez bien pour ça fait il y a plus de diversité et on les inclut plus dans la société actuelle.
Juste pour finir si vous me permettez c'est que on a aussi cette possibilité de tarif annuel parce que on a des partenaires qui nous accompagnent.
Oui.
On a aussi la possibilité de pouvoir avoir le local qui est mis à disposition, charge comprise. Donc c'est vraiment ça qui nous permet aussi de fixer ce tarif-là pour faciliter l'accessibilité à tout le monde.
Ça part de belles initiatives, il y a un soutien local, c'est ça aussi qui est beau. Et puis quand on parle de Jeux Olympiques ou Paralympiques tout à l'heure, il y a des modèles, on parlait de Virginie Aubert, Aurélie Aubert ensemble,
ouais.
Mais Johan, vous en êtes un au niveau local aussi, vous êtes inspirant, je vois résilience en tatouage. Enfin, c'est ça aussi, c'est se dire quelqu'un qui n'a peut-être pas le même niveau que Johan peut avoir un modèle aussi et avoir donné envie aux autres ou même ceux qui écoutent aujourd'hui. Et c'est ça qui est très, très inspirant dans la société d'aujourd'hui aussi.
Alors, je donnerai tout à l'heure la parole à Hugo, mais c'est vrai que tous les parathlètes que l'on a l'occasion de côtoyer, c'est tous des gens très optimistes. C'est ça, hein ?
Ah oui, plutôt, n'est-ce pas, Lucas ?
Ah oui. C'est ça qui est sidérant. Et souvent, ils nous disent, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue si j'avais pas eu un accident de la vie, quoi. C'est quand même assez incroyable.
Ah,
hein.
Complètement. Ils
on parlait
ils en trouvent une force.
Ce qu'on raconte, hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah, Alexis Encaquant, tu as rencontré
il y a quelques jours. C'est, on voit qu'il y a une force humaine et en fait, ça les a forgés. Et, en fait, on sent que ça les a boostés. Les Jeux paralympiques, ça les a boostés. Malgré le fait que les Jeux, il n'y a pas assez encore d'accessibilité et d'inclusion. Avec les Jeux paralympiques, on voit quand même que les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont impulsé quelque chose.
Johan, toi qui n'étais pas handicapé donc avant, qu'il est devenu, tu as ce sentiment-là maintenant ?
D'avoir plus de niaque, entre guillemets ?
Ouais,
mais après, je pense que c'est aussi un entourage, un accompagnement quotidien.
Tu me diras, on n'a pas le choix.
Déjà, on n'a pas le choix. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cadre, que ce soit ami-famille, qui était vraiment au top. Donc, ça m'a permis aussi
Avec un papa dans le foot.
Exactement.
Ouais,
Un papa dans le foot, un papa qui m'accompagne sur l'émission et dans l'association.
Ouais. Oui, oui.
Non, donc je suis content, je suis fier aussi de pouvoir partager ce moment-là.
Il avait été,
avec lui.
Tout à l'heure, dit le mot, surtout ne pas nous plaindre. C'est ça.
Ouais. Hein,
après, c'est un peu ça. Ouais.
Pour de vrai, on se plaint quand même. Hein, bah oui. On se plaint, mais...
On se plaint tous.
Voilà, c'est... Mais voilà, non, ça empêche rien de pouvoir faire des choses. Hein.
Il ne faut pas oublier, Philippe, un chiffre, c'est effectivement 12 millions de Français qui sont concernés par le handicap. Ah ouais. 80%, c'est arrivé au cours de la vie avec un âge moyen à 19 ans. Donc, il n'y a que 20% de personnes qui naissent avec un handicap. Donc, ça peut arriver à n'importe qui autour de la vie avec une vigilance au moment de la rentrée dans la vie adulte.
Mmh. Hugo, alors toi, donc ton association, elle aide justement tous ces gens-là.
Bah oui, totalement.
Raconte-nous un peu tout ça.
Bah alors, donc, l'association que j'ai créée donc, s'appelle AAD, oui. Association Animation à Domicile.
Oui.
Nous, on se porte plus sur le handicap des enfants. Donc, on est passé sur une base de 5 à 17. Mais je ne devais pas parler de ça, mais voilà, ça a un rapport avec tout.
Oui.
Je fais partie aussi d'une association de la Nuit Handicap que j'anime chaque année. Qui est effectivement la France est pauvre pour le handicap, mais c'est tellement riche, c'est riche en émotions, en joie, et je le remarque quand j'anime cet événement, et c'est là effectivement où je rejoins.
Devant le micro, s'il te plaît.
Ouais. C'est effectivement là où je rejoins ce qui a été dit, parce que c'est justement ce qui est en lien avec ça.
Mmh. Et donc, explique-nous un peu ton quotidien, c'est-à-dire tu les aides à faire du sport, explique-nous un peu.
Alors, en fait, par exemple, d'un handicap, moi, je ne peux pas, parce que je suis très occupé par rapport à l'animation, etc. Mais moi, par rapport à mon association...
Oui. Tu leur permets de faire du sport?
Alors, pas encore tout de suite, parce que ça fait que 2 ans et qu'il faut encore continuer à se faire connaître. Mais c'est prévu par la suite et j'espère avoir des connaissances qui vont pouvoir suivre.
Oui. Sinon, c'est quoi les autres aides que tu apportes?
Ça dépend de pas mal de choses. On est plus dans le niveau de... Plus dans le loisir. Parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas avoir de loisir dans sa vie. Donc, nous, alors ça fait que 2 ans, donc on n'a pas encore fait grand-chose. Mais dû à mon expérience, il y a le sport, adapté. Mmh. Et puis, il y a aussi une amie qui vient faire les karaokés, Karine Cardon-Jocelyn, qui est ici à Le Menton, j'espère, je lui passe le bonjour, mais qui vient animer ses karaokés, et c'est des moments d'échange très, très festifs et très joyeux.
Mmh. Oui, c'est important. Joanne, est-ce qu'il est prévu autre chose pour votre association? Est-ce que, par exemple, pourquoi pas la pratique de d'autres sports et un jour envisager?
Alors, pour le moment...
Sortir un peu de votre salle et puis...
Pour le moment, non. Au niveau des autres disciplines, c'est vrai qu'on reste dans le cross-training. Mmh. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait aussi par la suite, dans la mesure du possible, parce que ça demande beaucoup de moyens humains, c'est de potentiellement essayer d'ouvrir d'autres structures dans le même principe associatif qui pourraient justement accueillir d'autres personnes, parce qu'on se rend compte que quand on participe à des événements, on a besoin de beaucoup de monde et il y a beaucoup de personnes qui viennent en général de toute l'île de France qui rencontrent ces problèmes d'accessibilité, de proximité avec notre salle.
Oui.
Donc par la suite, si on a l'opportunité, on souhaite...
Alors je sais qu'on va parler de votre association le 20 juin 2026 avec l'ami Jacques Vendroux, avec le Variété Club de France.
On en a entendu parler pour le moment, j'ai pas encore toutes les infos,
Je sais qu'il y aura, il y aura un match qui sera fait pour plusieurs causes caritatives et donc vous en ferez partie.
Avec grand plaisir.
Ouais. Bon, Jason, Vivre FM, donc le sport, c'est hyper important.
Oui, le sport, c'est hyper important, ça fait partie de la vie, soit en situation de handicap ou pas. Et on est partie prenante sur notre antenne avec tous les jours le petit journal du sport avec notre collègue Lucas Le Charpentier.
Que j'ai aussi l'occasion de croiser.
Mais oui, vous croisez.
Si c'est foot, on est ensemble.
Exactement. Et je suis toujours entouré d'un autre Lucas, Lucas Didjan, qui va en parler lui-même, puisqu'on parle beaucoup de sport et de parasport, Lucas.
Oui,
effectivement, ça fait depuis cette année que je fais en service civique et que j'anime une émission qui s'appelle Sport 360 Le Mag, où on va faire, ben, comme on l'indique, le 360, le MAG, et on va aller chercher des associations pour les mettre en valeur, pour les mettre en lumière, et grâce à ça, pour faire découvrir des choses. Donc voilà, on a eu par exemple le président de la Fédération française d'handisport.
Je l'ai entendu le même soir que Pierre Lagrue.
C'est ça.
Ouais, et comme j'écoute tout, je lis tout. Donc,
donc voilà, et c'est des, on voit, on a des, il y a des sources d'inspiration. À un moment, on a eu aussi Riyad Salem.
Oui, où, qu'on connaît bien ici
là,
aussi.
Là, c'est, hein. C'est une grande source d'inspiration. On voit que en fait, ben c'est, en fait, on, moi, ça m'a appris que bah, y avait malgré notre malgré une personne qui est en situation de handicap peut être tout aussi inspirant, peut être tout aussi impactant, et ben, il faut que ça continue comme ça, et comme on dit, ben, faut que ça, les services publics, les collectivités en parlent.
Alors c'est une question qu'on pose souvent, est-ce que il y a quand même, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'ils ont le sentiment que eux, les athlètes que vous recevez, les para-athlètes que vous recevez, il y a un sentiment que ça bouge et que ça évolue un peu?
Oui, alors oui, ça bouge, ça évolue. Après, ça évolue pas assez. C'est comme, bah, comme le disait Alexis en quinquant, en fait, ça, oui, ça bouge et tout. Mais en fait, il faut qu'il y ait plus encore, qu'il soit mis en valeur encore plus, et que en fait, faut pas qu'il y ait que des radios associatives comme Vivre FM qui mettent en valeur. Et c'est pour ça que bah, du coup, il faut vraiment que ça soit ça soit mis en valeur dans toutes les radios et pas que dans des radios spécialisées.
Mais le problème, ça va être le problème de durée, de perdurer. Tu crois que ça va durer, Jason? Ça va continuer?
Alors, il faut déjà faire attention dans ceux qui ont été médaillés. Il y a deux équipes, je dirais. Il y a ceux qui ont la notoriété. Alors, et c'est le cas, évidemment, d'Aurélie Aubert. Mais pensons à Elios Atchoumanaya, médaille d'argent, pourtant en para-judo. Il est obligé de faire du porte-à-porte pour trouver des sponsors. Alors, il en trouve, mais il est quand même sportif de haut niveau avant tout. Ça veut dire que, bah, au-delà de faire des entraînements, il doit aller trouver des sponsors. Donc ça prend du temps. Est-ce que ça va durer? On l'espère. Mais malgré tout, on a un peu la conversation avec Dimitri Josviki, Manon Genest, qui sont en para-athlétisme, qui nous disent que c'est dur. Donc du coup, on va espérer parce que l'espoir fait vivre. Mais on peut quand même être négatif parce que on aurait pu se dire, allez, là, c'est parti au moins pour 3-4 ans avec vraiment les Français qui s'y intéressent, de l'argent qui coule. Alors, crise économique, etc.
Certes, ça n'aide pas.
Mais puis, même les Français, on a l'impression qu'ils oublient vite aussi un peu tout ça. Alors, heureusement qu'on est là, vous êtes là. Il y a des beaux témoignages, des belles associations, parce que sinon, ça irait mal.
Joanne,
je suis totalement d'accord. Je suis totalement le raisonnement de Jason.
Tu as ce sentiment là aussi, quoi. Faut que ça perdure, quoi.
Ah oui, faut absolument que ça perdure. Et je pense qu'il peut y avoir des choses de mise en place. Ne serait-ce que très simple dans le quotidien qui facilitera la vie à tout le monde.
Alors, en dehors du sport, bon, même si c'est une émission sportive, on va très brièvement donc, l'évoquer. Vous avez d'autres émissions aussi avec des gens qui ont des initiatives professionnelles dans leur vie de tous les jours. Est-ce que les portes se ferment pour ces gens-là?
Ah oui, alors les portes, elles se ferment. Complètement. C'est difficile de trouver du travail quand on est en situation de handicap. C'est difficile de trouver du travail aussi quand on est une femme. Il ne faut pas l'oublier. Clara Molinas nous en parle tous les jours dans les modèles. Ouais. Une femme qui veut travailler dans le BTP, bah, il va avoir un regard différent. Et pourtant, une femme scientifique aussi. Ça va être aussi le cas quand on commence à vieillir, quand on peut être plus gros que la moyenne. Le nombre de différences, il va être très très large, sans oublier le handicap invisible, psychique, aussi la santé mentale aujourd'hui. On en parle 2025, hein, grande cause nationale de santé mentale. Et pourtant, on a du mal à mettre aussi des mots de ce qui se cache derrière.
Oui, Hugo ?
Ah, mais je suis totalement d'accord à ce qu'il vient de dire, parce que même si ça ne se voit pas, moi aussi je suis porteur d'un handicap depuis très jeune. Et effectivement, la difficulté à recherche de travail est vraiment là. Ça, je peux en témoigner, parce que même quand on apprécie beaucoup de monde et qu'on est apprécié par beaucoup de monde, c'est toujours aussi galère.
Je pense que c'est ça aussi le problème des handicaps invisibles, que c'est encore plus compliqué qu'un handicap visible parce que en fait les gens ne voient pas donc ils ne voient pas, ils sont encore moins attentifs quand on a un handicap visible.
Ah mais complètement. On me l'a déjà fait remarquer, hein. Mm-hmm. Donc c'est malheureux de nos jours de dire ça, mais voilà.
Oui. Je
pense qu'il manque beaucoup de structures qui pourraient permettre justement d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi. Oui. Les autres problématiques qu'on rencontre, c'est les calculs d'indemnité qu'on peut percevoir par mois.
Ouais, c'est important ça.
Ça revient à l'accompagnement justement de la recherche d'emploi. Mm-hmm. Quand on se renseigne, c'est compliqué de savoir demain si on reprend une activité à temps plein, qu'est-ce qu'on va toucher
par exemple,
à la fin
tu
du mois.
Travaillais quand tu as eu l'accident,
oui.
Et maintenant tu travailles encore, tu as gardé ton emploi
non,
ou alors tu as été obligé
non,
de
j'ai pas
de
pu garder mon emploi parce,
oui.
que, parce que j'étais mécanicien automobile et que pour pratiquer ce métier, c'est beaucoup plus compliqué en fauteuil. Je perçois une pension d'invalidité et demain si je dois retravailler pour le moment c'est très compliqué de savoir à qui s'adresser.
Tu as des aides des fois le Pôle emploi il t'aide pas ou il n'y a pas des organismes
Non je perçois une invalidité due à mon ancien employeur plus un accompagnement de la sécurité sociale mais à côté de ça c'est les informations sont compliqués à aller chercher, mais bon, c'est encore d'autres choses à faire évoluer.
Oui. Tiens, je t'ai pas posé la question, comment tu as suivi les Paralympiques? Avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion
Beaucoup d'interrogations, c'est vrai que comme tout le monde, on s'est dit ça va être un bordel pas possible sur Paris.
Sauf nous, on a dû le faire.
Et j'ai eu l'occasion de venir sur Paris donc pour voir du beach volley. Donc le cadre était super, l'accessibilité au top pour le coup. Après, je n'ai pas eu plus d'occasion que ça. Par contre, j'ai eu l'occasion d'être, grâce à notre partenaire, la Banque Populaire, j'ai eu l'occasion de porter la flamme olympique.
Ah, c'est pas rien.
Donc
c'est
sacrée
énorme.
Expérience.
C'est énorme. Voilà. Dans l'Essonne ?
Dans l'Essonne, à Vigneux-sur-Seine, avec Gilles.
C'est énorme.
Avec Gilles, avec qui j'ai ouvert l'association.
Ah ouais.
C'est une sacrée opportunité, une bonne récompense pour tout le travail que... qu'on avait fait jusque-là, donc sacré moment.
C'est lui qui a proposé, c'est la ville qui t'a appelé, ça s'est passé.
Alors, c'est la Banque Populaire
c'est vrai qu'il y avait un concours.
Nous ont proposé d'être porteurs de la flamme, donc sur le relais.
Qui ressort des gens où ils choisissaient des noms. Ouais, oui. Mm-hmm.
Donc voilà, on a eu l'occasion de pouvoir y être. Du coup, on a aussi, on était dans le même véhicule que Nasser, donc. Du PSG.
Ah oui, du PSG.
Sacré moment aussi, très accessible, très gentil, franchement. Un bon souvenir.
D'accord. Et parmi nous, justement, ces grands sportifs paralympiques qu'on évoque.
À quel niveau, c'est-à-dire
En quinquant, Aurélie Aubert, tout ça. T'aimerais les rencontrer,
On a eu l'occasion, Riyad Salem que vous évoquiez tout
Riyad.
À l'heure, j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois donc sur des événements. Nous, on est aussi en partenariat avec le comité régional d'handisport et le comité du coup départemental du 91.
Oui.
Donc à cette occasion-là, par exemple des assemblées générales, des choses comme ça. On a l'occasion de côtoyer des sportifs de haut niveau. Rafik Arabat, par exemple, qui était en haltérophilie, entre autres. On a eu l'occasion de côtoyer des bonnes personnes. On a aussi Solène, j'ai oublié son nom, qui a participé au JO en natation, qui est passé justement dans notre salle. C'est un concours de circonstances. On lui a proposé de participer à la séance parce qu'elle était dans le secteur. Ça permet aussi de petit à petit continuer à faire parler de nous et montrer qu'on est là, qu'on existe et que derrière, il y a d'autres personnes qui ont envie de bouger. Et on essaye justement de faire parler de nous permettre à d'autres gens de, par la suite, potentiellement avoir l'envie de, d'ouvrir une autre structure.
C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on parlait de ces sportifs qu'on connaît bien. Finalement, on se dit, après tout, pourquoi pas moi, quoi.
Ouais, bah, complètement.
Voilà.
Ouais.
Allez, la pause musicale, et puis ensuite, on va parler à la page foot qu'on va donc avancer, puis on reprendra ensuite le cours des événements. Il y aura aussi de la natation artistique. On y va, la musique.
Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown cyniste plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, là, 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 tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous nos trafics en d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle, mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y'a Robinson solitaire qui banniche depuis mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, là, 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 tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés.
Voilà, bah comme promis, bah on va retrouver notre ami Stéphane Dezenclos un tout petit peu plus tôt que d'habitude, exceptionnellement. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, alors Stéphane, on va naturellement revenir sur cette première semaine, j'allais dire, de Coupe d'Europe, hein, ces matchs allés de Ligue des Champions, par le hold-up de Liverpool qui a battu donc le Paris Saint-Germain 1-0 et puis le nul de Lille à Dortmund 1-1. Ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. C'est beaucoup plus jouable pour Lille.
Oui. Bah, toi, tout à fait. Ouais. C'est sûr que Lille est très bien placé. Le Paris Saint-Germain, il faudra quand même un exploit pour gagner là-bas, en espérant que les deux équipes fassent le même match.
Oui.
Autant le Paris Saint-Germain que Liverpool.
Oui, surtout que, bon, c'est vrai Stéphane, on a souvent critiqué le Paris Saint-Germain qui s'est souvent un petit peu sabordé, mais là, sincèrement, sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Le gardien était en face, donc héroïque, Alisson, Et bon, voilà, c'est malheureusement, oui, ça fait partie du jeu, quoi, c'est ce hold-up.
Bah oui, ça fait partie du jeu, le hold-up, et puis le concours de circonstances, parce qu'il y a eu quand même quelques décisions arbitrales un petit peu litigieuses, on va dire. Bon, faut pas se cacher derrière ça, mais bon, il y a, en fait, disons que rien n'a tourné en faveur du Paris Saint-Germain. Le but de Gvara qui est refusé logiquement, hein, mais pour 3 centimètres, la faute sur Barcola, que tout le monde estime qu'il y a faute, hein, même des personnes neutres estiment qu'il y a faute. Donc tout ça fait bout à bout, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est encore une nouvelle étape pénible sur la route du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quoi.
Ouais, d'autant plus que le Paris Saint-Germain, on sait, n'a jamais su renverser la tendance dans les matchs retour en Ligue des Champions. Hein.
Ah bon?
Oui, ils vont peut-être pouvoir le faire dans des matchs. Ouais, ouais, quand ils étaient dos au mur, on parle. Hein.
Ah bah oui, ben moi je me souviens de Barcelone l'année dernière, non?
Oui, d'accord, mais Dortmund c'était pas le cas, par exemple. Voilà.
Non, Dortmund ça n'a pas été le cas.
Le Real Madrid
d'avant,
pareil, il y a eu plusieurs.
Non, le Real Madrid y menait la dernière défaite. Bon, oui, bon, c'est sûr. Oui. La dernière défaite, Real Madrid, ils avaient mené 1-0.
Après, ils terminent à 3-1 à l'arrivée. Non, mais c'est vrai que souvent il y a eu ce sentiment-là. Alors peut-être qu'on va écrire l'histoire différemment, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a tout le temps eu, effectivement, il y a tout le temps eu des choses. On a eu l'impression que c'est une sorte de karma ou mauvaise chance ou quelque chose. Bon, maintenant, on peut aussi se raccrocher. Lucien Riquet a dit qu'il pensait qu'ils allaient se qualifier l'année dernière avant le retour à Barcelone. Il avait dit pareil, qu'il était sûr qu'ils allaient passer. Alors bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un sérieux exploit parce que bon, à Liverpool, ils ont quand même joué en championnat ce week-end et ils n'ont pas été fameux non plus, hein. Ça n'a pas devenu ils ont joué le dernier, hein, quasiment déjà relégué, et ils ont gagné 3-1 en débloquant le match sur la fin. Ils auraient pu très bien être menés même 1-0, donc c'est pas non plus forcément perdu d'avance. Maintenant, c'est clair qu'on nous aurait dit il y a un mois, vous irez là-bas en ayant perdu 1-0 à l'aller. Ça y est, bah, de toute façon, ils sont trop forts, machin. C'est vrai qu'après, par rapport à ce qui s'est passé dans le match et tout, on peut espérer. Comme tu le disais, Philippe, Lille, par contre, aurait même mérité de gagner.
Balotage favorable pour Lille.
Bah largement, enfin sur le niveau, là, ce serait Lille, ça serait même une grosse déception, quoi. Dortmund n'est pas bon en championnat, ça va pas forcément beaucoup mieux depuis qu'il y a Kovac, vu qu'ils ont fait une prestation quand même très 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 moyenne contre Lille la semaine dernière. Ils ont perdu ce week-end en championnat sans quasiment faire tourner, hein, parce que c'était quasiment la grosse équipe qui était alignée. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas en confiance. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on appelle la chance européenne ou comment ça va se passer, pourvu qu'il n'y ait pas une barre, un poteau, un joueur expulsé, et puis quelque chose. Si on a le déroulement normal d'un match de foot, ce qui est le cas pour Lille depuis le début quand même, parce que ça a plutôt tout le temps tourné en leur faveur, hein, tout ce genre de choses, ça va passer.
Oui. Bon, le match entre les deux Madrid, un petit avantage pour Real qui a gagné le match aller 2-1. Ça pourrait se terminer au tir au but, cette affaire. Hein.
Ouais, il y a beaucoup de matchs, quoi. En tout cas, là, c'est les trois là dont on vient de parler.
Après, après les autres, ça sera c'est joué pratiquement.
Ces trois-là, en tout cas, effectivement, ça peut être. Ça peut très bien, les trois peuvent tout à fait se terminer au tir au but. Hein.
Oui, parce qu'ensuite, on va rappeler que ça sera bon pour Aston Villa qui a gagné à Bruges 3-1. Ça sera encore bien meilleur pour Arsenal, vainqueur devant le PSV Eindhoven 7-1. Pour l'Inter qui a pris aussi une sérieuse option en battant Feyenoord 2-0. Tant mieux pour nous et pour l'indice UEFA. Et puis, nette victoire du Bayern devant les Leverkusen 3-0. Et puis le Barça, ça sera aussi sans trop de difficultés après sa victoire à Benfica 1-0.
Ouais, Bayern, Munich et Leverkusen, je pense qu'il peut y avoir du suspense.
Ah bon? Tu penses qu'il peut y avoir un renversement de situation?
Bah, jusque-là, je sais pas, mais il peut y avoir un peu de suspense, du style, je sais pas, mettons, t'as le Bayern, t'as le Leverkusen qui mène 1-0 à la mi-temps, par exemple, donc tu te dis, bon, bah, s'ils en mettent deux en deuxième, tu vois, puis qu'en mettent un deuxième à 5 minutes de la fin, tu vois, des choses comme ça, je sais pas. Pareil, les deux équipes ont perdu ce week-end. Oui. Je pense qu'elles étaient toutes les deux dans leur match de préparation pour cette semaine. Mais en tout cas, s'il y a une équipe qui est capable de mettre des buts au Bayern, c'est bien les Leverkusen. Oui.
Bon, enfin, on verra.
Mais c'est vrai que le Bayern est quand même très grand favori.
Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, par contre, ça sera bon aussi pour Lyon, qui s'est pratiquement qualifié pour les quarts, donc en s'imposant en match aller des huitièmes de la Ligue Europa, 3-1 contre donc le Steaua Bucarest.
Ouais, tout à fait, en faisant un match moyen pendant assez longtemps, hein, puisqu'ils ont peiné quand même en première mi-temps, Lyon, et puis ils n'ont pas été très très réguliers, mais bon, dans l'ensemble, ils ont montré leur supériorité quand même face à ces Roumains, donc je pense que ça va passer aussi.
En tout cas, on va vivre une folle donc semaine encore, Stéphane, hein, comme la semaine dernière.
Ah, bah, ouais, semaine qui est folle. Parce qu'il y a ça. Après, on va avoir le classico.
Ça tombe bien, puisque je fais la transition avec la Ligue 1, 25e journée. Bon, Paris, donc, qui creuse encore un peu plus les écarts. Hein, le Paris Saint-Germain qui est allé largement gagner à Rennes 4-1. Dans le même temps, auparavant, il y avait eu Toulouse et Monaco qui avaient fait nul 1 partout. Lille qui a battu Montpellier 1-0. Marseille qui a été battu à domicile par Lens 1-0. Donc Lens qui met fin à 4 défaites consécutives. Brest qui bat Angers 2-0. Victoire de Strasbourg à Nantes 1-0. Reims qui s'enfonce un peu plus en étant battu à domicile par Auxerre 2-0. Nul entre Le Havre et Saint-Etienne 1-1. Et puis Lyon hein, qui bat Nice, qui va gagner à Nice 2-0. Donc du coup, ça fait l'affaire du Paris Saint-Germain. Je l'ai dit, en tête avec 65 points. Devant Marseille, 49 points. Donc il y a donc maintenant 16 points d'écart. Le troisième, c'est Nice 46. Quatrième, Monaco et Lille 44. Avec quand même donc une différence de but supérieure pour les Monégasques. Plus 17 contre plus 13. Et Lyon 6e à 42 points. Et en bas de tableau, Nantes 14e, 24 points. 15e, Reims 23. Attention Reims. Hein. Donc 16e, Le Havre 21. 17e, donc Saint-Etienne 20 points. Et 18e, Montpellier quand même décroché 15 points.
Ouais, c'est très chaud. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas assez... On l'a pas assez souligné parce que pour tout le monde, maintenant, de toute façon, c'est une évidence que le Paris Saint-Germain va être champion de France, ce qui était déjà le cas il y a un moment. Mais bon, mine de rien, quand même, il y a un zéro point pris par Marseille et un seul point par Monaco. Mais même Nice, en fait, mais Nice, le troisième, c'était Nice. Ouais, hein,
bah oui, c'est
et
fini,
même Nice aussi. Nice. Ouais. Zéro point pris par Nice, ça veut dire que Paris a maintenant 16 points, voire encore plus derrière, sur les autres derrière, sur ses poursuivants. Donc c'est quand même là, il y a vraiment tous les voyants sont ouverts. Je crois qu'il y a même dans deux matchs, selon si Marseille perd au Parc le dimanche prochain et ne gagne pas son match d'après et que Paris gagne, je crois qu'ils peuvent être champions dans deux ou trois matchs, Paris. Quoi.
Ah non, c'est sûr. Et puis peut-être qu'ils vont tenter le fou défi de finir invincible cette saison, quoi. C'est-à-dire invaincu.
Ah, c'est ça qui
invaincu.
Va.
Ah ouais, maintenant, ouais. C'est le but, hein. Maintenant.
Ouais, ça va pas être évident, mais c'est le but. Ça va pas être évident pour une seule chose, c'est qu'en fait, ils vont être peut-être victimes de leur supériorité, dans le sens où s'ils sont champions, mettons 5 matchs avant la fin, donc ce qui normalement est prévu, on va dire hein, 15 points d'avance, quoi, sans compter la différence de but. Donc 5 matchs avant la fin, et on a vu dans l'histoire de tous les PSG, hein, j'ai pas en mémoire des PSG qui ont été champions 3-4 matchs avant la fin et qui ont gagné tous leurs matchs derrière sans trembler tout, pas trembler, mais je veux dire qui ont gagné tous leurs matchs derrière. Il y a eu pas mal de victoires dans les derniers matchs ou au Parc des Princes, ou des victoires qu'on n'attendait vraiment pas parce que de toute façon Paris était déjà champion et puis, bah, il y avait même avec cet effectif là on aurait tendance à dire que il y a un tel turnover et puis une telle concurrence finalement parce que tout le monde voudra avoir sa place, il va y avoir, espérons-le,
pour le Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe de France, au minimum, quoi, s'ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Et puis tous les joueurs du PSG voudraient avoir leur place, quoi. Puis il y en a où c'est très. Où il y a une énorme différence, mais il y en a où, quand tu regardes les attaquants, Barcola, Doué, Kvara et Dembélé, ils sont 4 ou 3 places. Donc tu as forcément la volonté d'être tous au summum. Au milieu, c'est un peu pareil, avec Ruiz, Zaïre Emery, Vitinha et Neves. Donc tu as quand même un petit peu de concurrence, quoi. Donc tout le monde voudra, donc on peut compter là-dessus pour qu'il soit. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous êtes champion, je pense que c'est là que ça va être le plus compliqué pour
pas se relâcher. Allez, 26e journée de Ligue 2. Alors là, ça fait complètement resserré, hein, puisque le Paris a battu Lorient 3-2. Dans le même temps, Metz a écrasé Annecy 5-1. Victoire du Red Star devant Amiens 2-0. Ce soir, il y a Rodez-Dunkerque à 20h45. Donc Lorient et le Paris FC qui maintenant se partagent la première place avec 52 points. Petit avantage quand même, plus 19 contre plus 17 à Lorient pour le goal average. Le troisième, c'est Metz à 50 points. Quatrième, Dunkerque, 48 points. Et cinquième, Guingamp, 42. Donc si Dunkerque gagne ce soir, il y aura 4 équipes en 2 points.
Il y aura 4 équipes en 2 points. Ouais. Pour l'instant, il y en a 4 en 4 points. Ouais. S'il faut un nul, ça fera 4 en 3 points. Si jamais il gagne, ça fera 4 en 2 points. En 4 en 2 points, ce serait quand même assez incroyable. Et surtout pour cette équipe de Dunkerque, qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Donc, donc ça serait tout à leur honneur, quoi, de réussir cette performance, quoi.
Oui. Alors, le Red Star, par contre, c'est bien. Pour l'instant, 12e avec 32 points. Ils ont une petite marche par rapport à Rodez, par exemple, 15e avec 27 points. 16e Clermont, 25 points. 17e Martigues, 24 points. Et donc, quand un peu plus décroché, 18e avec 19 points. Donc là aussi, entre Rodez, Clermont et Martigues, c'est chaud quand même. Hein.
Ouais, c'est chaud. Bah, Rodez aurait tout intérêt à prendre des points contre Dunkerque, parce que je crois qu'ils ont un calendrier qui n'est pas non plus très, très. Je crois qu'il y a le prochain match après, c'est pas non plus très, très facile. Donc, ils ont intérêt à prendre des points. C'est sûr qu'ils ont intérêt à prendre des points, parce que sinon, ça va être chaud. Mais je veux dire, c'est un peu comme en Ligue 1 aussi. Quand on se sent menacé, les autres, ils répondent pas présents. C'est ce qui s'est passé un peu ce week-end. Reims, par exemple, en perdant sur sa pelouse face à Auxerre, pouvait craindre d'être barragiste. Mais il aurait fallu que le Havre, à domicile, batte Saint-Etienne et fasse. Et ils n'ont pas su le faire. Donc finalement, Reims reste au-dessus. Attention à Nantes, qui descend aussi, qui commence à dégringoler. Bon, Reims aussi, bien sûr. Mais ça, c'est comme on le disait, hein, Reims, c'est une équipe qui a vendu aussi tous ses meilleurs joueurs. Quoi, certains de ses meilleurs joueurs. Lors du mercato, hein, c'est le cas de Montpellier, ces clubs-là, ça leur pend au nez. Hein.
Ouais. Allez, en national, Stéphane, donc 24e journée. Tiens, un club qui nous intéresse, le Paris 13 Atlético, battu donc à Quevilly-Rouen 1-0. Dans le même temps, Versailles a fait match nul à domicile face à l'autre équipe rouennaise, à partout. Ouais. Victoire de Bourg-en-Bresse devant Nancy 1-0. De Boulogne-sur-Mer devant Bagne 2-1 et nul entre Dijon et Orléans 2 partout. Ce qui fait que là aussi, ça se resserre. Hein. Nancy en tête avec 40 points. Devant Boulogne-sur-Mer, deuxième 40. Troisième Le Mans 38. Quatrième Orléans 36. Et puis ensuite, il y a Sochaux qui est avec Versailles, qui est dixième à égalité avec 27 points. Il y a peu d'écart entre le 15e et puis le 10e, puisque le Paris Atlético 13 et 15e avec 24 points. Suivent donc 16e Nîmes et Châteauroux 23 points. Donc il y a là aussi très 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 peu d'écart. Seulement 4 points sépare les deux derniers et le 10e. C'est fou quand même. Hein.
Ouais, c'est fou. Puis en haut, c'est pareil. Hein.
Ouais, ouais.
En haut, il y a 4 équipes en combien de points où les premiers, ils sont très 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 serrés, donc c'est très c'est vrai que c'est chaud, quoi. C'est chaud, mais ça, de toute façon, on dit depuis le début, hein, la Ligue 2 comme le National, c'est des championnats.
Mais là, ça s'est resserré quand même encore. Hein.
Ouais, ça s'est encore plus resserré là. C'est assez
tout est possible.
C'est assez incroyable, quoi. C'est excitant d'ailleurs, c'est bien.
Oui, bien sûr. Allez, un petit mot pour avec les féminines, on va terminer. Ça sera bien une finale 100% parisienne, hein, puisque le Paris FC est allé gagner à Saint-Étienne 2-1 et le Paris Saint-Germain, non, c'est le Paris Saint-Germain, pardon, qui a gagné à Saint-Étienne 2-1 et le Paris FC qui s'est imposé au Havre, donc également sur le même score de 2-1. Donc le 3 mai prochain, à Calais, on aura une finale 100% parisienne, Paris FC, Paris SG.
Ouais, tout à fait. Hein, donc c'est exactement ça. Puis il y a bientôt, je pense, un PSG, PFC aussi en championnat, qui va permettre de éventuellement classer les deux équipes, hein, entre la deuxième et la troisième, quoi. Donc on arrive directement. Voilà, c'est une fin de saison PSG entre le Paris FC, le PSG, le chez les hommes, le PSG chez les femmes, le Paris FC chez les femmes. C'est bien.
Très bien. Ok. Merci Stéphane, donc notre ami Stéphane Dezenclos du quotidien du sport. Hein, on se retrouve la semaine prochaine, ça sera 20h05, hein, l'horaire classique initial. Merci pour
pas
tout Stéphane.
Allez,
belle semaine. Hein,
bon.
Belle semaine.
Bonsoir, tout bon,
voilà.
Bonne
merci.
Semaine.
Belle semaine. Voilà donc pour notre ami Stéphane Dezenclos. Jason, le foot, pas trop?
Alors le foot, pas trop, parce qu'on a décidé sur Vivre FM de parler de sport un peu différent.
Oui, bah,
alors c'est vrai qu'on parle de foot partout, c'est pour
aussi,
vous laisser.
Tout, hein.
Ah, oui,
pareil,
oui,
hein,
oui, oui, oui. Cela dit, mes deux Lucas adorent le foot.
Alors justement, Lucas.
Oui,
un petit mot sur le foot.
Moi, j'adore le foot. Après, effectivement, concernant la Champions League, Liverpool, c'est un gros morceau. Je pense qu'on peut y croire parce qu'on n'a gagné que 1-0. On n'a perdu que 1-0. Donc,
attention, tu es journaliste. Hein. Tu dis, oh, on peut y croire. Non, non, je déconne.
Je pense qu'on peut y croire. Ouais. Et je pense qu'il faut tout faire pour réussir à aller la gagner. Après, c'est Anfield, donc il faut. Mais ils ont les armes et je pense qu'il y aura Luis Enrique. Je pense que ça peut le faire. Et si on a un Dembélé qui cadre cette fois, je pense qu'on peut aller.
Depuis un moment, il cadre. Allez, justement, on parle de tous les sports, même la natation artistique. Oui. Hein. C'était à Paris donc le week-end dernier. On va écouter tout à l'heure les interviews qu'avait ramené Vanessa. Mais je vais saluer donc notre ami Alexandre qui va nous donner les principaux vainqueurs des différentes catégories, hein, pour être très complet.
Bonsoir
Alexandre.
Philippe, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je vais essayer de faire rapide. Oui. En solo technique des femmes, c'est l'Espagnol Thio Casas qui a remporté l'épreuve. En solo libre des femmes, c'est l'Allemande Bleyer. Mmh. En duo technique des femmes, c'est les Espagnols Ferré Gasset, Luis Valette. Oui. Les Françaises ont été troisième, Anastasia Bayandina et Romane Lunel. Juste devant, encore des Françaises, Romane Temesek et Lou Tuillier, qui ont fini quatrième. En duo libre des femmes, c'est Kobayashi et Sato, les deux japonaises. En solo technique des hommes, c'est Tomblin, le britannique. Ouais. Le kazakh Druzin qui remporte le solo libre des hommes. Les britanniques Huge et Tomblin qui remportent le duo technique mixte. Le duo libre mixte, c'est Amerali et Koukouselis Fouskis, les grecs.
Tu l'as bien dit, c'est grec.
Ouais, j'ai répété avant, Koukouselis Fouskis,
bien,
les grecs. Ouais. En acrobatie par équipe, c'est les États-Unis qui ont remporté l'épreuve. Et juste devant, l'équipe de France qui a terminé deuxième. Technique par équipe, c'est l'Espagne. Ouais. Et en libre par équipe, c'est le Kazakhstan.
Alors très bien, justement, on va écouter donc l'interview de la coach de cette équipe de France qui a terminé donc deuxième.
Oh, les gars, c'est ma première médaille.
Bon, bon bilan, il y a quoi? Il y a la satisfaction de retrouver la compète, ou il y a quand même un poil de déception, de l'argent, c'est quoi?
Ouais, non, là pour l'instant, à ce stade de l'année, c'est vraiment de la satisfaction. On n'est qu'en février et on a vraiment un nouveau collectif à construire. Donc c'était une première expérience aussi tout ensemble, d'apprendre à s'entraîner et surtout d'apprendre à arriver en compétition ensemble. Donc c'est vraiment une belle première sortie pour nous. On en ressort avec plein de choses positives et évidemment plein d'axes de travail également. Mais je pense que toute l'équipe est là pour dire qu'on est très fiers de nous et de ce qu'on a produit tout au long de ces 3 jours et notamment aujourd'hui. Donc maintenant, c'est sur quoi bosser pour préparer les prochaines compétitions.
Ça a été facile cette adaptation de la Corée avec les nouvelles? Il a fallu remplacer Laura et Charlotte notamment.
C'est ça, il a fallu tout changer clairement. Nos postes, se réapproprier des nouveaux rôles. Mais ça l'a fait, on a mis du temps, on a beaucoup travaillé. Et on va encore beaucoup travailler, mais jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien.
Deux médailles sur la première Coupe du Monde. Est-ce qu'il y avait aussi, j'imagine, l'ambition de faire la médaille sur l'équipe tech?
Ouais.
Qu'est-ce que vous gardez de cette équipe tech justement?
Là, ce qu'on retient, c'est qu'on a validé notre coach card sur l'équipe tech. Et donc, c'était un petit peu la chose la plus importante. Et maintenant, nous, on va pouvoir, les prochains jours, pour préparer les autres compétitions, se centrer sur les points qu'on a améliorés et qui auraient pu nous faire monter sur le podium. Mais en tout cas, on retient l'essentiel, c'est qu'on a validé notre coach card. Et avec cette nouvelle équipe, c'était un point important.
Un petit mot sur l'ambiance. On est de retour à Paris. Il y avait eu Montpellier pendant 2 ans. Là, on est de retour à Paris. Ouais. Comment vous l'avez senti ?
Super bien, on ressent un petit peu, en tout cas pour celles qui ont fait les Jeux, ce qu'on a pu ressentir un petit peu aux Jeux Olympiques. Et de sentir tout cet engouement, c'est encore une bouffée d'oxygène pour nous. Ça nous a accompagnés et entraînés dès l'échauffement jusqu'à là, à la fin du ballet. C'était hyper encourageant pour toute l'équipe.
Justement, votre sentiment après cette deuxième place, cette médaille d'argent ?
On est très fiers de nous. Comme je disais, c'est vraiment une première sortie avec un nouveau collectif. On repart vraiment avec une équipe beaucoup plus jeune. Il a fallu s'approprier des nouveaux rôles, expérimenter de nouvelles choses, des nouvelles façons de s'entraîner. Donc on est très fiers de nous et d'avoir pu sortir ça à ce stade de l'année, après une année comme les Jeux Olympiques.
Sur quel point vous allez travailler pour préparer les futures échéances ?
Alors on va, je pense, beaucoup travailler encore sur les difficultés, parce que ça reste la chose primordiale, valider les coach cards, mais également cette unité qu'on avait, en tout cas pour les Jeux Olympiques, vraiment d'arriver avec une équipe hyper forte, comme si on avait l'impression qu'on s'était entraîné ensemble depuis 10 ans, mais ouais, arriver avec un collectif hyper solide et puissant.
Votre objectif de la saison, c'est aussi les championnats du monde. Pour vous, quels sont les axes de progression technique sur lesquels vous pouvez vous appuyer ?
On va, je pense, augmenter tout ce qui est aussi l'aspect artistique, qui est une note importante. On va encore travailler en technique pour être proposer des éléments et des figures hyper solides pour aller chercher une médaille au championnat du monde.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'épreuve acrobatique comparée aux autres et un peu les difficultés de cette discipline, de cette épreuve ?
Ouais, alors l'épreuve acrobatique, contrairement aux autres, il y a 7 portées imposées. Il n'y a aucune figure imposée, contrairement aux 2 autres épreuves. Donc c'est 7 portées avec des codifications bien spécifiques et qu'on doit valider les uns après les autres. Et sinon, après, ça reste une épreuve beaucoup plus axée sur l'artistique. Mais donc voilà, le focus de ces épreuves-là, en fait, c'est les portées, valider nos portées et la note sort.
Justement, vous parliez de cette nouvelle équipe. Comment vous avez travaillé sur l'esprit d'équipe pour arriver ici, être un peu plus prête, et en quoi cette compétition, même à chaud déjà, vous donne un premier indicateur pour la suite ?
Ouais, eh bien on s'est servi de nos années d'expérience, comment bâtir un collectif, comment aussi apprendre à se connaître, parce qu'on on a des années d'âge différents. Donc il a fallu apprendre à se connaître, apprendre aussi la façon de chacune de travailler, on est différentes et on a essayé d'harmoniser tout ça. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on va continuer à travailler là-dessus jusqu'au championnat du monde. Et cette première compétition était importante pour voir justement comment le collectif réagissait au stress, comment l'équipe pouvait s'entraider, se soutenir, réagir au moment un peu plus difficile. Donc c'était en fait une découverte un peu pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les entraîneurs. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi cet objectif.
Merci beaucoup.
Voilà donc pour la coach de cette équipe de France. On va écouter donc très brièvement l'analyse de Julie Fabre, qui est la grande patronne de toutes les équipes de France de natation artistique.
Votre sentiment juste après cette Coupe du Monde à Paris ?
Je suis très satisfaite du travail que les nageuses ont réalisé. Je trouve que à cette période de la saison, surtout pour une équipe fraîchement renouvelée, c'est un beau challenge qu'elles ont réussi à relever. Alors tout n'est pas parfait, ça on le savait, et on est dans notre on suit notre chemin et notre construction. Donc on va continuer de travailler fort pour être encore meilleur sur les prochaines étapes.
Voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. La piscine Georges Valeret, vous connaissez, c'est dans le 20e. Hein. Ça a servi de lieu d'entraînement aux équipes de France de natation olympique et paralympique. Hein.
Et puis c'était la piscine historique de 1924.
Tout à fait. Inaugurée avec la ville de Paris. Et puis maintenant, ils font des belles compétitions. Bon, Alexandre, maintenant, tu vas nous donner toutes les autres infos de l'actualité sportive. Hors foot, naturellement. Et naturellement, on commence avec cette énorme prestation du 15 de France qui s'est imposée samedi à Dublin.
Absolument, ouais. Les résultats de la 4e journée du tournoi des Six Nations. Donc, comme tu l'as dit, la victoire de nos Bleus contre l'Irlande, 42-27. L'Angleterre a également battu l'Italie, 47-24. Et l'Écosse a battu le Pays de Galles, 35-29. Au classement, la France est leader avec 16 points, l'Angleterre deuxième avec 15 points, l'Irlande troisième avec 14 points, l'Écosse quatrième avec 11 points, l'Italie cinquième, 4 points et le Pays de Galles sixième avec 3 points. Prochain match des Bleus et le dernier contre l'Écosse samedi à 21h.
Ça sent bon la victoire dans le tournoi 2025.
Mais voilà, donc en cas de victoire ou même de match nul, les Bleus remporteront le tournoi.
Et vous savez que l'entracte va être royal puisque c'est Louane qui va dévoiler la chanson de l'Eurovision.
Absolument.
Bah oui.
Donc on a terminé sur le rugby, on passe au basket maintenant avec les résultats de la 28e journée d'Euroleague. On a eu droit à un Paris-Monaco qui s'est soldé par la victoire des Monégasques, 80-79. C'est deux défaites cette semaine pour les Parisiens qui avaient perdu le match précédent contre Fenerbahçe, 87-83. Les Parisiens qui descendent donc à la 7e place, mais ça reste très serré puisqu'ils ont 44 points et se retrouvent à seulement 5 points du leader l'Olympiakos. Monaco est 4e avec 45 points et Lyon-Villeurbanne est 15e avec 39 points. En Betclic Elite, Parisiens et Monégasques sont encore affrontés ce week-end. Oui. Et nouvelle défaite des Parisiens, sans détail cette fois-ci, 94-63. Les Parisiens sont sur une très mauvaise série de 4 défaites consécutives, la première de la saison. Nanterre a perdu contre Lyon-Villeurbanne 88-74. Les Nanterrois restent 12e au classement. Les Parisiens sont 3e derrière Monaco et Cholet et à égalité de points de Lyon-Villeurbanne. En handball maintenant, 14e journée de Ligue des Champions et le PSG l'a emporté contre l'Eurofarm Pellister 35-26. Nantes a fait un match nul contre Aalborg 29-29. Les deux clubs français sont qualifiés pour la phase finale. Nantes affrontera le Wisla Plock et le PSG affrontera Szeged. Pas de championnat féminin ce week-end, mais chez les hommes, alors ça va te faire plaisir Philippe, on a eu droit à un derby du Val-de-Marne entre Ivry et Créteil.
Oui, alors
32-30 pour Ivry.
Ouf.
Et ça leur permet de se relancer dans la course au maintien et de revenir à 3 points de l'avant-dernier Cesson Rennes. Créteil reste 12e. Gros choc de haut de tableau également puisque le PSG affrontait Nantes. Victoire importante des Parisiens 34-28 qui leur permet de shipper la première place aux Nantais. En volleyball, 24e journée de championnat et les Parisiens ont perdu 3-2 contre les Tourangeaux. Le Plessis-Robinson a perdu également contre Chaumont 3-0. Au classement, Paris descend à la 9e place et le Plessis est encore et toujours dernier. Chez les femmes, Levallois-Paris a gagné 3-1 contre Terville-Florange. Le club des Hauts-de-Seine gagne 2 places au classement et est désormais 2e égalité de points avec le leader, le Pays d'Aix-Venel. En cyclisme, résultat du Strade Bianche qui s'est terminé ce samedi. Et bien sûr, c'est l'inévitable Tadej Pogacar qui a remporté...
Après être tombé.
Et qui pourtant réalise un très bon chronomètre en 5h13 minutes et 58 secondes, suivi du Britannique Pidcock et du Belge Wellens. Deux Français dans le top 20, Jordan Labrosse 17e et Kevin Vauclin 20e. Le Paris-Nice également a débuté.
On y était ce week-end, on y était hier, était un petit peu ce matin. On en parlera plus largement la semaine prochaine. On
vous plus largement,
des,
oui.
Des
oui,
petites
oui.
interviews quand même.
C'est Tim Merlier. Le Belge qui a remporté la première étape, suivi par le Français Arnaud Demar.
Oui.
Aujourd'hui se déroulait. On l'a interviewé, donc on passera la semaine prochaine. Parfait. Et deuxième étape aussi, Tim Merlier qui la remporte une nouvelle fois. Sauf que cette fois-ci, c'est Émilien Janière, le Français, qui termine à la seconde place. Au classement général, donc logiquement, c'est Tim Merlier qui est premier, suivi de Arnaud Demar qui a terminé septième aujourd'hui. Émilien Janière qui s'incruste dans le podium. Ça nous fait deux Français sur le podium pour l'instant. Donc on espère que ça va rester comme ça, voire mieux. En athlétisme, un bilan des championnats d'Europe en salle à appel d'hommes aux Pays-Bas. Thibaut Collet s'est finalement classé quatrième après avoir sauté 5m85 en saut à la perche. Le titre a été partagé entre le Néerlandais Meno Vlon et le Grec Emmanouli Karalis à 5m90. Alors que Renaud Lavillény a pris la 11e place. Autre résultat marquant, Agathe Guillemot en 1500 mètres qui sauve son premier titre européen dans une belle soirée pour l'équipe de France avec 4 médailles à la clé. Azdine Abs en argent également en 1500 mètres. Willem Bellossian et Juste Kouaou Maté sont venus apporter sur le 60 mètres et les 3e et 4e médailles au bleu. Voilà, donc joli week-end pour nos équipes de France.
Ça fait 8 médailles au total pour la délégation française et il y en a quelques-uns qu'on a eu l'occasion de croiser avec Lucas lors de meeting de Bercy et notamment notre ami Bellossian.
Oui, effectivement.
En ski alpin, je vous rappelle que la Coupe du Monde se joue à Vitiel en Norvège pour les hommes et à Arré en Suède pour les femmes. Chez les hommes, c'est l'Italien Dominique Paris qui a remporté la course d'hier, suivi par le Canadien Crawford et le Slovène Robat. Nils Allègre, le Français, est arrivé à la 9e place à égalité avec l'Autrichien Stefan Eikeberg. Au classement, Marco Odermatt est toujours largement leader avec 1516 points. Henry Christophersen est deuxième avec 946 points et Franjo Van Almen est troisième avec 776 points. Premier français du classement, c'est Clément Noël qui avait pourtant réalisé un bon début. Il est à la 11e place avec 490 points. Chez les femmes à Arré, Katharina Troupé, l'Autrichienne, a remporté la course d'hier en 1 minute 42 secondes et 8 centièmes, talonnée par sa compatriote, également une Katharina, Liensberger. et l'américaine Michaela Schifrin. Mmh. Au classement général, Federica Brignone est toujours leader avec 1294 points. Lara Gudberami, la Suisse, deuxième avec 972 points. Et Zrinka Ljutic est troisième avec 790 points. En biathlon, pareil, championnat du monde à Nové Mesto en République tchèque.
Et oui, les saisons se terminent. Hein. Dans deux semaines, c'est fini. Hein.
Chez les hommes, l'épreuve du relais de ce week-end a été remportée par la France en 1h16 minutes et 24 secondes, suivie par la Norvège et l'Ukraine. Et chez les femmes, pareil, la France a remporté aussi le relais en 1h11 et 11 secondes. La Norvège et l'Allemagne complètent le podium. Et on termine ce journal des sports, Philippe, le Vendée Globe.
C'est fini le Vendée, c'est fini.
C'est terminé, le dernier skipper est arrivé. C'est Denis Van Weinberg, le Belge, qui a franchi la ligne d'arrivée hors délai, malheureusement. Ouais. À un jour près. Ouais. Donc 117 jours sur la mer pour lui, mais bon, malheureusement, il n'est pas arrivé à temps.
Ils seront que 32 qui seront donc finalement classés à l'arrivée. Merci donc Alexandre pour cet abondant donc, journal Omnisport. Vous faites le Tour de France.
Oui, le cyclisme, c'est populaire.
Oui. Comment ça s'est fait, cette histoire de vivre FM sur les routes du Tour?
Alors, c'est assez simple, parce que Léo Tassel, qui est animateur dans l'équipe, est fan de cyclisme, et moi aussi. Et donc, du coup, on s'est dit, et si on faisait le Tour de France? Et à partir de là...
Vous faites des envieux, là.
Et oui, on a eu beaucoup de chance. Alors, c'est un angle différent. Mais effectivement, la personnalité de Léo Tassel y est pour beaucoup, hein, puisqu'il est en situation de handicap. Et il essaie d'apporter un regard différent sur le Tour de France.
Alors, qu'est-ce qui se fait sur le Tour de France pendant donc, vos émissions? Les regards, c'est quoi? Il s'intéresse à des gens de la caravane?
Oui, tout à fait. Léo part chaque matin sur la caravane au niveau du village départ et puis aller à la rencontre, je dis n'importe quoi, d'équipe Haribo qui va distribuer les bonbons pendant la caravane. Mais on va recevoir également des acteurs de l'écologie, des acteurs du handicap ou bien des invités épatants. Lucas avait participé d'ailleurs pour trouver ses invités. Tout se cale à l'avance, Lucas.
Oui, c'est ça. On est toujours dans le côté avec toujours le côté inclusion et handicap. On varie toujours humoriste, magicien. Et après aussi, il y a les handisports.
Et puis bon, vous avez des coureurs qui doivent venir vous voir.
Les échanges avec les cyclistes. L'équipe belge. Enfin, moi, j'adore la Belgique. Remco Evenepoel, là, qui est quand même un sacré champion. Puis qui a été titré à Paris doublement. Les Belges, ils sont forts dans pas mal de sports, l'oublier.
Donc ça, depuis 3 ans.
Depuis 3 ans, on est présent à Roland-Garros aussi.
Oui, alors justement, aussi Roland-Garros, j'ai vu ça.
Pareil, on est fans tous les deux de tennis.
D'accord.
Et on est présents sur Roland-Garros avec notre émission radio quotidienne. Et on va s'intéresser à tout l'à côté de Roland-Garros, tout ce qu'il peut y avoir au niveau aussi compétition, puisqu'il y a le tennis fauteuil. On a une numéro 1 mondiale qui est française. C'est Xenia Chasteau. Mm-hmm. Elle a tout juste 18 ans. Elle a surveillé de près pour peut-être remporter Roland-Garros fauteuil cette année. Et puis, on voit également aussi les grands champions qui font
rêver. Stéphane Houdet, on l'a vu pendant les
Stéphane
Paralympiques.
Stéphane Houdet, non plus Stéphane Houdet.
C'est vrai que c'était... Bon, ça apporte beaucoup, ça.
Ça apporte beaucoup parce que nous, Vivre FM, on veut être présent dans la vie des Français. Et on le sait, le Roland-Garros, le Tour de France, le Salon de l'Agriculture, dans un autre style, sont des événements de la vie des Français. Et on se doit aussi de sortir de notre studio et d'aller comme ça sur des sites qui sont magnifiques. Parce que quand on est présent sur le Tour de France même dans l'enceinte de Roland-Garros, on va essayer les 24 heures du Mans.
Pourquoi pas.
Voilà, c'est un projet aussi. Exactement.
Très bien. Johan, donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Le prix, par exemple, ça coûte combien fauteuil?
Un fauteuil en moyenne, sur un fauteuil basique pour une personne paraplégique, on va être sur du 8000 euros.
Si on n'a pas l'argent, on fait comment?
Si on n'a pas l'argent, on essaie de solliciter des organismes, des associations, ce genre de choses.
C'est ça qui reste à améliorer, justement.
Exactement. C'est une parenthèse intéressante, mais effectivement, il reste à ce niveau-là aussi beaucoup de choses à faire. On parle d'un fauteuil manuel. Il y a des fauteuils électriques qui coûtent plus de 15 000 euros. Mm-hmm. Donc, quand on est en situation de handicap et qu'on n'a pas des grosses ressources, ça devient compliqué de juste obtenir un moyen de transport. Le fauteuil roulant, c'est nos jambes. Donc, là, une loi est passée, on verra ce que ça donne à la fin de l'année. Pour le moment, c'est encore un peu flou, mais on espère que ça sera des bonnes nouvelles.
Et pour certains sports, est-ce qu'il y a des sports plus faciles que d'autres au niveau du handicap?
Ça va dépendre du handicap, oui, je pense. Ouais. Il y a énormément de pathologies différentes les unes des autres. Nous, dans le cross-training, c'est vrai que on essaie de... Voilà, à l'association Adaptateam, on accueille tout type de handicap. On a la chance de pouvoir vraiment varier les exercices, les mouvements en fonction de tout type de handicap. Donc, on en profite. En général, je pense qu'il y a beaucoup de sports qui peuvent quand même répondre aux attentes de tout type de handicap. C'est l'avantage.
Oui, parce que
on l'a vu avec les JO.
Oui, on parlait d'Aurélie Aubert. C'est vrai que la boccia, c'est un handicap très lourd au départ. Hein.
C'est un handicap très lourd. Et puis on l'a vu ensemble, Philippe.
Oui.
Qui demande une intelligence de jeu en même temps.
C'est
impressionnant.
Hein.
Ouais.
Alors, en plus, après, elle était complètement métamorphosée en zone mixte.
Oui.
Alors que
complètement.
La victoire, elle disait « j'aime pas trop parler en interview, en tout cas, ça m'avait brouillé. Hein. »
C'est tout devenu un symbole.
C'est un symbole. Bon, alors, votre association, allez-y, on peut vous rejoindre, faut pas hésiter. Hein. Vous avez tous des gens de l'Essonne ou alors il y en a qui viennent de beaucoup plus loin?
Non, on a des personnes qui viennent de différents départements. Maintenant, on essaye de... Enfin, les personnes, malheureusement, sont limitées en termes de déplacement. Mais c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent du 94, du 77.
Alors n'hésitez pas, allez pour...
Bien sûr, allez sur nos réseaux sociaux, Adaptateam, sur Facebook, Instagram principalement, vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera ravis de pouvoir vous accueillir sur des séances d'essai, de manière à ce que vous puissiez voir si...
Tous les jours?
Non, on a des créneaux bien spécifiques, donc c'est aussi pour ça qu'il faut nous contacter de manière à ce qu'on puisse vous intégrer sur une séance pour pouvoir vous faire découvrir notre asso.
Donc allez-y, n'hésitez pas, écrivez sur le site internet.
Sur le site internet, sur le Facebook, l'Instagram, on essaie d'être un peu partout pour continuer de développer l'activité.
Merci John. Allez, donc, un petit mot pour toi. Donc, Hugo, pour ton association, vas-y, c'est le moment.
Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai dit au tout début, nous allons fêter les 2 ans de notre association le week-end du 4, 5 et 6 avril au Parc Saint-Jean de Compiègne.
D'accord.
Voilà, un événement qui prévoit pas mal quelques mois d'organisation et que j'espère qu'il y aura beaucoup de succès.
Il y a un site internet ?
Alors, pour le Facebook,
Oui.
Pour le Facebook, c'est mon Facebook à moi, Hugo Garrett Vauquet. Et pour le Facebook, et pour le Snapchat et Insta, vous mettez le nom de l'asso AAD.
D'accord, ok. Donc, si on veut te contacter, c'est par ces réseaux-là.
Voilà.
Très bien. Merci, messieurs. Vivre FM, donc, c'est quoi le prochain rendez-vous sportif?
Lucas vous a préparé, je crois, des émissions. On va parler de sport féminin,
d'accord,
n'est-ce pas?
Vas-y, Lucas.
Oui, on aura du sport féminin où je m'étais rendu à la course sine qua non, où j'avais interviewé la ministre des Sports. Donc, on avait discuté concernant le sport féminin et on va essayer d'avoir aussi des athlètes féminines. Voilà. Et sinon, à part ça,
Très bien. Merci. C'était un plaisir.
Merci à vous. Hein. Merci pour cette belle rencontre.
Merci beaucoup.
Je peux juste passer. Bonjour à tous les adhérents, toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début. Voilà.
Ouais, très bien.
Merci pour l'invitation et puis bonne soirée à tout le monde.
De rien. Et puis moi, je vais remercier Jason, le technicien qui était aux manettes brillamment comme d'habitude ce soir. Et puis on vous laisse avec l'équipe de Au bout du foot. On se retrouvera naturellement la semaine prochaine et on finit en musique comme le veut la tradition. Belle soirée à toutes et à tous. Bye bye.
Sur la pierre, les mots du premier jour saveur amère. Demain t'interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, aide aux yeux pâles, délaissé par le ciel et le mal.
Paris FM.